talmudique. Le Talmud, dans le traité Baba Metzia, page 85b, raconte que quand Rabbi Hanina et Rabbi Chiya étaient en opposition par rapport à l'explication d'un verset, Rabbi Hanina disait à Rabbi Chiya « Peux-tu te mesurer à moi qui suis capable, si la Torah devait être oubliée par Israël, de la restaurer par mes seuls commentaires ? Et toi, peux-tu te mesurer avec moi, alors que j'ai fait en sorte que la Torah ne soit jamais oubliée ? Voici comment j'ai procédé. J'ai semé du lin, j'en ai tressé des filets avec lesquels j'ai capturé des daims. De leur chair, j'ai nourri des orphelins. De leur peau, j'ai fait des parchemins sur lesquels j'ai écrit 5 livres saints. J'allais dans une ville, j'enseignais les 5 livres respectivement à 5 enfants. Puis j'enseignais à 6 autres enfants les 6 ordres du Talmud. Un ordre à chaque enfant. Je leur disais à tous, jusqu'à mon retour, que chacun de vous apprenne aux autres ce qu'il sait. Voilà comment j'ai œuvré pour que la Torah ne s'oublie pas. C'est ce qui fait dire à Rabbi Chiya, Chiya a fait de grandes choses. Que retiendront les livres d'histoire de la fin du XXe siècle et du début de ce XXIe ? Sans doute qu'ils furent marqués par la place fondamentale qu'a pris le numérique dans la vie quotidienne de la plus grande partie de l'humanité, et ceci dans tous les domaines. Mutation technologique qui s'est accompagnée d'une transformation en profondeur de nos habitudes d'écriture, de lecture et d'information, et d'une transformation fondamentale de notre rapport au temps et à la vitesse. Vitesse de réponse à la question, à toute question. Il suffit d'entendre un mot, un nom, une idée, pour découvrir en un clic, via une connexion Internet, tout ce que l'on peut savoir sur le sujet, en se contentant d'une information immédiate et succincte, dans un premier temps, qui pourra se poursuivre par une enquête et une recherche approfondie sur le sujet en question. Si les lieux traditionnels du savoir continuent d'exister et à faire un travail formidable, j'inclus ici la radio et en particulier les chaînes du service public, mais aussi la télévision et ses chaînes et ses émissions culturelles. On ne compte plus le nombre des universités et des pôles d'enseignement académique qui offrent tout un cursus d'études numériques avec des contenus audio et vidéo dans toutes les disciplines, permettant aux étudiants, mais pas seulement, de découvrir, d'apprendre, de réviser et de se perfectionner. En France, par exemple, la Sorbonne et le Collège de France. Le judaïsme français, dans toutes ses composantes culturelles, a très tôt et très rapidement eu la chance qu'un homme passionné, pionnier de la vidéo sur Internet, et sans doute un peu visionnaire aussi, fit le pari de créer un groupe multimédia dont le projet était la conception d'outils informatiques pour la diffusion de la culture juive. C'est ainsi que naquit Akadem. Laurent Munich, bonjour.
Bonjour.
Laurent Munich, vous êtes journaliste, diplômé d'Harvard et de Sciences Po Paris, où vous avez été maître de conférences. Vous avez fondé et dirigé de grands groupes de communication et vous êtes le créateur d'Akadem, une formidable réussite. Aujourd'hui, 11 ans après sa création, Akadem est dans la francophonie le site le plus connu, le plus reconnu dans le domaine de la culture juive. Une véritable institution de référence qui permet à des milliers d'internautes de s'informer, d'écouter, de voir, d'étudier, de consulter des archives et de se tenir au courant des événements culturels tels que les cours, les conférences, les expositions, les concerts, les émissions de télévision et de radio aussi. Comment tout cela a commencé? Quelles sont les orientations qui furent à l'origine de ce projet, Laurent Munich?
Écoutez, d'abord, merci pour vos mots aimables, parce que franchement, la compagnie du Collège de France et de la Sorbonne, elle nous honore, on va essayer d'être à la hauteur. C'est une longue histoire, un peu personnelle. Je m'excuse si je parle de moi. Vous l'avez dit gentiment, j'ai travaillé dans la presse traditionnelle. Et puis, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit problème parce que, je ne sais pas si c'était lié, mais les titres auxquels je collaborais disparaissaient les uns après les autres. Je travaillais à France Soir, je travaillais au Matin de Paris. Ça évoquera des souvenirs peut-être parmi les plus anciens d'entre nous. J'ai beaucoup travaillé aux Nouvelles Littéraires. Et voilà, tout ça, ce sont des titres qui ont disparu. Alors je me suis dit, il y a quand même un problème. Soit c'est moi qui tue l'un après l'autre ces supports de presse. Mmh. Et il est temps qu'on m'éloigne de tout ça. Et puis voilà, non, trêve de plaisanterie. Très vite, j'ai eu la chance de m'intéresser à ce qu'on appelait à l'époque, ça n'était même pas encore Internet, ça s'appelait les réseaux numériques. Et puis, je me suis rendu compte du formidable potentiel. Et à l'époque, on ne savait pas trop quoi faire de ces réseaux, je me suis dit assez vite qu'il y avait probablement la possibilité de faire du journalisme sur ces supports. En même temps que je travaillais dans ces supports de presse disparaissants, j'avais la chance aussi de continuer une activité journalistique militante dans le cadre du Fonds social juif unifié. J'étais, comme beaucoup d'entre nous dans cette génération, pigiste pour l'Arche. J'ai fait l'aventure des radios libres, radio communauté. Et puis un jour, je suis allé voir un homme formidable qui dirigeait le Fonds social à l'époque, David Saada. Je lui ai dit, vous savez, il y a un énorme potentiel, il y a vraiment une carte majeure à jouer pour la transmission de la culture juive et de l'information sur Internet. Il m'a dit, bah écoutez, ça tombe bien parce que je réfléchis à la même chose. Et puis on a réfléchi ensemble et c'est comme ça qu'est né le concept d'Académ. D'un mot, Académ, c'est la volonté d'essayer de s'affranchir de l'espace et du temps, c'est-à-dire de conserver des contenus oraux qui sont par essence évanescents, qui disparaissent, et puis surtout de faire une chose qui était quasiment d'avoir un don d'ubiquité, c'est de pouvoir être au bon endroit au bon moment, là où la pensée s'élabore. Et ben la magie de ce support numérique, c'est que voilà, ça fait tout ça à la fois. Alors ça a plein de travers, on en parlera peut-être, ça a plein de défauts, mais ça fait ça, ça fait que et on reçoit des mails qui sont à pleurer d'émotion. Quand je suis seul au fin fond de Clermont-Ferrand où il n'y a pas beaucoup de vie juive, eh ben on reçoit de temps en temps un mail de quelqu'un qui nous dit « Vous n'imaginez pas ce que ça nous apporte, vous n'imaginez pas ce qu'Académ représente pour nous. » Donc voilà, ça c'est un peu l'aventure Académ qui se poursuit depuis 11 ans maintenant.
Alors quel défaut justement ?
Alors quelques défauts. Le premier, c'est cette capacité à accéder directement à l'endroit de la connaissance qu'on croit être celui qu'on cherche. Alors les informaticiens que j'ai beaucoup fréquentés, ils distinguent deux types d'accès. Ils distinguent ce qu'on appelle l'accès séquentiel et l'accès sélectif. L'accès séquentiel, c'est-à-dire que on balaye toute une bande informatique jusqu'à ce qu'on tombe sur l'information qu'on cherche. C'est long, c'est lent, c'est laborieux, c'est pas du tout efficace, c'est pas du tout rentable. Et puis on a inventé des choses diaboliques qui sont l'adressage numérique. Et aujourd'hui, on est capable d'aller tomber exactement là où on a trouvé la chaîne. On recherche une chaîne de caractères. Mais en arrivant au bon endroit, on perd cette errance qui est créatrice d'une extraordinaire richesse intellectuelle. Moi, j'ai gardé, vous avez évoqué mes années américaines, j'ai gardé un souvenir délicieux de mes années aux États-Unis. Et l'une des choses qui m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est qu'on m'a attribué une place dans la bibliothèque. J'avais un bureau dans la bibliothèque. Et que c'est pas du tout comme en France où on va chercher son bouquin, on attend qu'il soit disponible avec sa fiche, son machin, etc. Non. Là, on va chercher soi-même son livre. Et chercher soi-même son livre, ça veut dire qu'on passe en revue tout ce qui est pas loin, et ce balayage théorique, eh ben, il ouvre des champs extraordinaires. Et ça, à mon avis, Internet, aujourd'hui, l'interdit. Donc,
Oui, mais pourtant, Académ le permet, parce que quand on rentre sur Académ et qu'on cherche un cours, une conférence sur la politique de tel gouvernement en Angleterre, par exemple, on va en même temps rencontrer une vidéo sur le Talmud ou sur la Bible. Donc, exactement. Là encore, on se retrouve peut-être comme dans une bibliothèque. Alors, c'est bien que vous citiez la bibliothèque parce que dans votre CV, j'ai vu que vous êtes aussi président d'une association qui s'appelle Sifria et qui a pour vocation le sauvetage et la mise en valeur de la bibliothèque du séminaire israélite de France. C'est-à-dire que, et vous êtes aussi président de Rachel, qui est le réseau européen des bibliothèques judaïques hébraïques, et l'intégration des bibliothèques juives européennes dans un catalogue commun. C'est-à-dire que vous êtes très sensible aux livres, au papier et à cette dimension, je dirais, de la bibliothèque. Et c'est peut-être cela qui fait le succès d'Académ, c'est-à-dire que vous avez transposé l'idée de la bibliothèque, l'espace de la bibliothèque, la mentalité de la bibliothèque dans un site. Certes, ce sont des vidéos, mais ça reste une bibliothèque et donc où il y a cette errance créatrice dont vous parlez, Laurent Munich.
Pour la précision, je ne suis plus président de Rachel, mais je continue à y être très très attaché, le catalogue numérique juif. Effectivement, il y a du savoir, il y a des contenus, j'ai horreur de ce mot, mais c'est celui qui s'impose, il y a du savoir, peu importe en définitive son support. Et au contraire, la grande intelligence de ces supports numériques est de considérer qu'il y a du savoir et qu'il y a toute une palette, une panoplie d'outils pour les diffuser et pour les faire connaître. Donc oui, évidemment, continuité. Mais vous savez, l'histoire des médias que j'ai un peu enseigné à Sciences Po, elle est jalonnée de gens qui ont dit « Ah oui, mais tel nouveau média va tuer le précédent. Ah oui, mais le cinéma va tuer le théâtre. » C'est rigolo aujourd'hui de se dire ça. « Ah oui, mais la télé va tuer le cinéma. Ah oui, mais Internet va tuer la télé. »
Ou la radio.
Ou la radio. Mmh. Donc c'est une vaste plaisanterie. Et ce monde de la communication, il a ce site particulier que plus il y a d'offres, plus il y a de demandes. C'est-à-dire, plus on propose des contenus intelligents, et ben plus il y a des gens pour les écouter, ce qui fait qu'on a encore quelques années devant nous, mon cher Marc-Alain.
Oui. Alors, j'aimerais m'arrêter un petit peu sur le nom Academ. Je trouve que c'est une jolie trouvaille. Bien évidemment, on pense immédiatement au mot « académie », un mot fort intéressant qui vient du grec « akademos », nom d'un héros athénien qui permit à Castor et Pollux de retrouver leur sœur Hélène, qui avait été enlevée et cachée par Thésée. Akademos, à qui appartenait un jardin, ou selon d'autres auteurs, auquel fut consacré un jardin au nord-ouest d'Athènes, et dans lequel s'installa plus tard l'école de Platon, et de ce fait prit le nom d'Académie. Nom que gardèrent par la suite toutes les écoles platoniciennes, puis un certain nombre d'écoles et de lieux de savoir. Un beau jardin plein de fraîcheur et de ruisseaux, où se réunissaient les philosophes pour échanger leurs conceptions du monde et sur les dieux, écrit Plutarque dans ses biographies parallèles. On ne peut pas ne pas être frappé, Laurent Munich, par la proximité phonétique entre les mots qui disent « l'Académia grecque » et le jardin décrit dans le texte de la Bible, le jardin d'Éden, ou en Éden, qui est jardin ombragé et arrosé par quatre fleuves, dit le texte, jardin dont le texte souligne aussi qu'il était à l'est de l'Éden, expression biblique que Steinbeck a immortalisée en littérature. Est, qui se dit en hébreu précisément qu'Édem. Ces deux jardins, par ce rapprochement phonétique, ne dit-il pas aussi un rapprochement culturel entre Athènes et Jérusalem? Je pense, Laurent Munich, que cela possède de fortes résonances pour vous. Peut-être une manière de retrouver cette pensée de Claude Lévi-Strauss, que toute culture est toujours la coalition de deux cultures.
Alors, on reconnaît bien, Marc-Alain, votre art de jongler avec les racines et avec la polysémie extraordinaire qui caractérise l'hébreu. Académ, c'est effectivement tout ça. C'est aussi un petit peu... Académ, ça veut dire aussi aller de l'avant, c'est l'innovation, c'est la découverte, d'être à l'avant-garde en quelque sorte. Et on a eu un petit peu on a essayé d'avoir ce côté pionnier. À l'époque où on s'est lancé, YouTube n'existait pas et Dailymotion n'existait pas. Alors sur les deux jardins, oui, il y a ce monde de la raison, ce monde de la rationalité. Et en tant que fils d'ingénieur, de frère de scientifique, moi-même pur produit de l'université française et américaine, je suis pétri de ce culte de la rationalité. Et puis il y a le Pardès, il y a le ou l'Éden, il y a l'autre jardin qui n'échappe pas au monde de la rationalité, qui a sa propre rationalité, mais qui a en plus des trésors de richesses, de valeurs éthiques, de valeurs morales, de réflexion sur le rapport à la relation à l'autre, sur la sociabilité, comment on fait pour vivre ensemble, ce qui est loin d'être évident. Et ça, la raison a montré qu'elle n'était pas très forte pour nous expliquer comment vivre ensemble. Donc je me reconnais pleinement dans cette recherche de pont pour rejoindre les deux mondes. Oui, en effet.
Laurent Munich, nous entendrons Chaïm Soudri dans un chant de liturgie constantinoise. Alors pourquoi ce choix ?
Alors c'est une longue histoire. C'est un concert qu'on a enregistré en live en 2012, d'où la qualité sonore un peu médiocre. On est une toute petite équipe avec peu de moyens, mais c'est quelque chose qui m'est très cher, d'abord parce que c'est une musique qui faisait pleurer ma mère, donc moi-même par voie de conséquence. C'est une musique extraordinaire parce que elle montre la formidable capacité des Juifs, où qu'ils soient dans le temps et dans l'espace, à intégrer ce qu'il y a de mieux de la culture environnante, à le faire sien sans perdre leur âme, sans perdre leur identité, à l'intégrer, à le faire sien et à le véhiculer, puisque voilà, vous avez fait référence à ces différentes cultures auxquelles j'essaye d'emprunter. Oui, moi j'ai la chance ou le défi d'avoir un père d'origine polonaise avec une migration à travers le Danemark et la Suède qui s'est retrouvé en France, et une mère constantinoise.
Vous parlez de votre père, le général Munich.
Mon père, Zichron Eliorachar, le général Munich. Et qui a, par les hasards, c'est peut-être la seule chose pour laquelle il faut remercier le maréchal Pétain, c'est que comme il a été viré de l'armée française, il a été envoyé par le mouvement des éclaireurs israélites de France, dont il était très militant, très actif. Il a été envoyé dans le Constantinois pour organiser la jeunesse juive à Constantine. C'est là qu'il a rencontré ma mère. Et voilà pourquoi je suis là. Mais c'est mon ADN à moi. C'est le fait que le judaïsme, il est complètement polymorphe.
Oui, c'est votre ADN, mais en même temps, c'est un ADN qui est paradigmatique, parce que dans votre histoire très personnelle, vous retrouvez, vous montrez quelque chose de la grande histoire, un petit peu comme dans les émissions précédentes ici sur Talmudique. Nous avons reçu à chaque fois des personnes dont chaque histoire, c'est des histoires qui sont personnelles, mais qui disent beaucoup de l'histoire juive en général et du rapport de l'histoire juive avec l'histoire mondiale, si on peut dire. Et je trouve que le parcours que vous racontez, ce père d'origine polonaise qui passe par la Suède, le Danemark, qui se retrouve en France, puis est général et en même temps
se retrouve une femme dans
Constantine, voilà, ça dit quelque chose de très très important. Akadem, c'est combien de personnes? Vous en êtes le fondateur. C'est un site très très important, mais combien de personnes sont avec vous pour...
Alors, quelques chiffres. Akadem, c'est aujourd'hui 5500 conférences, c'est 2000 conférenciers, c'est tous les jours 10 000 visiteurs qui viennent sur le site. Voilà, ça c'est... Et puis Akadem, c'est surtout une toute petite équipe de jeunes absolument extraordinaires, d'une implication et d'un dévouement, et j'ai plaisir à citer leurs noms, puisqu'ils m'accompagnent depuis le début de l'aventure. Donc c'est d'abord Sigalit Lavon, la directrice éditoriale, c'est Ruben Honigman, directeur éditorial lui aussi pour tout ce qui est le Kodesh, c'est-à-dire la partie plutôt limoude et traditionnelle, et puis c'est Solène et Nino qui gèrent qui règnent sur tous les ordinateurs, les vidéos, les caméras, les serveurs, toutes ces choses abscondes. Et puis c'est surtout aussi deux fondations, elles aussi exceptionnelles, qui assurent le financement d'Akadem. D'une part, le Fonds social juif unifié, que j'ai nommé tout à l'heure, et aussi la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que je pense les auditeurs connaissent bien, qui a la très délicate mission de gérer et d'attribuer les fonds des tombés en déshérence, des disparus de la Shoah. Et vous savez, quand on est financé à 50% par les dons de la communauté et par l'autre 50% par l'argent des disparus de la Shoah, ça oblige.
Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet d'une particulière gravité, parce qu'il est d'abord d'une particulière actualité. La France va entrer, ou est déjà entrée, dans une période électorale, et cette première phase se caractérise déjà par toute une série de rumeurs, d'imputations non vérifiées, qui incitent à des polémiques, à des querelles, et qui posent la question du langage politique et du langage en général. Comment est-ce qu'on doit parler quand on parle non seulement aux autres, mais des autres? Est-ce qu'on peut parler en leur absence, et pour dire quoi? Et à partir du moment où ces imputations soient calomnieuses, soit injurieuses, elles peuvent tomber sous le coup de la loi. Alors, il y a deux aspects dans notre affaire. Il y a un premier aspect qui relève de l'éthique de la relation sociale, de l'usage de la parole entre personnalités interhumaines et puis aussi entre concitoyens. Et là, c'est l'objet du premier verset que nous allons examiner, qui est tiré de la Parasha Kedoshim, donc dans le livre de Vaïkra, dans le livre du Lévitique, et qui dit expressément ceci, qui formule cette prohibition à deux niveaux. L'otel rachil be'amecha, ne va pas colportant des rumeurs ou des médisances parmi ton peuple. L'ot amud al damre'echa, ne te tiens pas sur le sang de ton prochain. Et ça, c'est indexé sur la valeur suprême, Ani Hashem. Je suis l'Éternel ton Dieu, ce qui signifie d'ores et déjà que si ces deux interdits ne sont pas respectés, c'est la perception du divin qui disparaît, du champ visuel et du champ intellectuel et du champ spirituel.
Laurent Munich, on vient d'entendre la voix de Raphaël Drey, un des grands maîtres contemporains et l'un des acteurs majeurs de l'École de Paris. Il fut très proche d'Eliane Amadolivi-Valency. Pourquoi, parmi les milliers de documents d'Académ, avez-vous choisi celui-là?
D'abord, c'est une grande émotion d'entendre, de réentendre la voix de Raphaël. C'est effectivement l'une des figures probablement les plus importantes de la pensée juive d'après-guerre. Et puis parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de clin d'œil de l'histoire là qui est troublant, parce que vous l'avez entendu, il parle des rumeurs, des scandales, etc. Et je suis sûr que tous nos auditeurs ont pensé, s'ils ne savent pas que Raphaël est malheureusement décédé il y a 2 ans, tout le monde s'est dit, allez, on remet ça avec l'affaire Fillon et les scandales. Et ben pas du tout. Cette conférence, elle a été enregistrée en 2011. Il s'agissait d'autres rumeurs. Bon, pour la petite histoire, on était juste avant les primaires du Parti Socialiste pour les élections présidentielles, et la rumeur s'acharnait cette fois-là contre Martine Aubry. Et ce qui me paraît extraordinaire, et c'est pour ça que j'ai choisi, c'est que voilà, on a déjà oublié les frasques de l'histoire et de Martine Aubry, etc., cette rumeur, mais ce qui reste, c'est la pensée de Raphaël Drey qui, lui, renvoie à la Parasha Shoftim et qui renvoie à ce principe fondamental de vie en société, de ne pas colporter une rumeur. C'est cette intemporalité de la pensée juive, le fait que aujourd'hui un verset qui date de milliers d'années est d'une parfaite actualité pour notre vie en société. Et ça, je trouve ça tout à fait édifiant. Ne va pas colportant la rumeur. Et un peu plus loin, le texte de la Torah, il dit cette chose qui est absolument fabuleuse, mais fabuleuse pour un journaliste. Et il dit, n'accueille pas une parole mensongère. Ça veut dire que ça fait de l'individu, c'est pas du tout la seule responsabilité du journaliste que de ne pas diffamer, colporter des fausses informations. C'est la responsabilité du lecteur, de l'auditeur, de te dire attention, là, c'est du mensonge, ça n'est pas vrai. La société, elle repose sur l'esprit critique aussi de l'auditeur. Là, il vient de me raconter un bobard, ça n'est pas vrai.
Alors très important, y a-t-il eu dans cette année 2017 un événement qui vous a particulièrement marqué et dont vous avez noté un intérêt particulier des internautes?
Alors, si je vous dis que ce qui nous a marqué, ce sont les élections présidentielles, législatives américaines, vous allez dire, il est vraiment pas très original ce garçon, mais voilà, le magazine d'Académ, qui est l'un des volets de la panoplie des outils qu'on a développé, a comme sous-titre un regard juif sur le monde. Et l'idée, c'est de se dire que, ben voilà, élections présidentielles, etc. Mais c'est quoi un chef? C'est quoi les valeurs d'un chef? Qu'est-ce que ça veut dire diriger, être le chef dans une société? C'est une question qu'on est allé poser à quelques personnalités fortes de la communauté juive francophone aujourd'hui. Et chacun a apporté, en se fondant toujours sur le texte talmudique ou biblique, a apporté son éclairage sur c'est quoi un chef. La pensée juive, elle permet, j'espère, ce recul académique pour essayer de réfléchir à ce que nous vivons au quotidien.
Alors, revenons encore au nom Académ. En hébreu, Académ est le futur à la première personne du verbe kidem, qui veut dire accueillir quelqu'un dans le sens de se retrouver face à lui, et qui signifie aussi faire progresser un élève. Si le site est construit comme un choix très très vaste et très riche de conférences, dans tous les domaines que chacun choisit en fonction de ses questionnements et de ses intérêts, quels sont les outils que vous avez conçus pour la progression à la fois des savoirs et des apprentissages?
C'est effectivement l'une de nos préoccupations majeures. Parce que il se trouve qu'on a fait, l'année dernière, à l'occasion de notre 10e anniversaire, on a fait une enquête de lectorat. Et donc, on a demandé aux gens un petit peu de bien vouloir se présenter. On a découvert des choses qui nous ont vraiment troublés, qui nous ont amenés à repenser un petit peu tout notre modèle. L'une des choses qu'on a découvertes, c'est que plus de 25% de nos internautes ne sont pas juifs. Ce sont simplement des gens qui viennent puiser à la source du savoir juif. Et puis un autre, grosso modo 20 ou 25%, je me souviens plus précisément, sont des gens qui disent « je n'ai aucune pratique, aucune affiliation, quelle qu'elle soit, avec le judaïsme, mais je me sens juif ». Voilà. Alors c'est dit, mais alors, comment on parle à ces gens-là? Parce que c'est bien beau de manipuler des concepts, de balancer des noms, des mots en hébreu au milieu d'une phrase en français. Mais comment on s'adresse à ces gens-là? Et ça nous a beaucoup amené à réfléchir. Et on s'est dit que à l'intérieur de notre offre, il fallait qu'on diversifie et qu'on ouvre encore plus l'éventail. Alors ça a donné lieu à une intensification du travail sur le magazine d'Académ, là où on parle de l'actualité des livres, des films, des concerts, des expositions, ce qu'on appelle un peu le juif culturel. Ces gens qui voilà, qui n'ont aucune pratique juive, mais quand ils rentrent dans une librairie, allez savoir pourquoi, ils vont tout de suite vers la table où il y a les essais sur le judaïsme ou l'histoire juive ou sur la pensée juive, etc. Alors que, voilà. Comment on parle à ces gens-là? Et on a donc fait évoluer notre offre. Et puis pour ceux qui sont plus férus de textes, de pensée juive, qui sont prêts à rentrer avec nous dans les textes, eh ben, on s'est rendu compte que il y avait un petit problème. Il manquait une marche. Donc, on a fait une espèce de marche-pied. C'est une série qu'on a créée qui se trouve avoir un beau succès d'audience, qui s'appelle Aleph Bet. Aleph Bet pour commencer. Et ces Aleph Bet, ce sont des tout petits clips. Ça fait 5, 6, 7 minutes. On les veut très pédagogiques. Et on explique aux gens, ben, voilà, c'est quoi la cache-route. Tous ces mots qui évoquent quelque chose, mais quand on leur dit précisément, on se rend compte que c'est un petit peu plus flou. On leur explique qu'est-ce qu'il y a dans les tfilines, ces bois. Alors, on essaye de le faire de façon ludique. On a les tfilines, on a appelé ça le secret des boîtes noires. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes noires? Est-ce que c'est les phylactères que les juifs traditionnels se mettent sur le front et sur les bras?
Donc, l'année studieuse s'achève. Les vacances sont pourtant toujours un moment privilégié de ressourcement et de découverte. J'ai envie de vous poser une question qui est plus personnelle, presque traditionnelle, à la veille des vacances. Et quel livre allez-vous emporter dans vos valises, Laurent Munich?
Ah, c'est une question compliquée, ça. Mais je vais vous surprendre. Les vacances, c'est le moment où on arrête, je suis sûr que vous allez me comprendre, on arrête d'ingurgiter des livres à toute allure, parce qu'on reçoit tel invité, parce qu'on se demande si on va en parler ou ça va pas en parler. Donc on a une espèce de lecture discursive où on a quasiment une indigestion. Et ben, pour moi, les vacances, vous savez ce que c'est? C'est de lire le journal. Je m'arrête, je laisse ma tablette, j'achète le journal papier, j'en achète plein, et je le lis, mais calmement, intégralement, avec un plaisir non dissimulé. Mais pour répondre quand même à votre question, j'ai pas encore tout, enfin tout dépend, parce que si jamais on part en voiture, alors la voiture se transforme, grâce à mon épouse, en bibliobus, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de livres, en général c'est elle qui choisit, et puis c'est elle qui me donne les livres qu'elle a aimés, donc ça c'est sympathique. Je pense que je vais quand même faire un détour, j'espère, j'en ai assez envie, je vais faire un détour, revenir par gourmandise, revenir à Georges Perec qu'on vient de publier en bibliothèque de la Pléiade, parce que je trouve que c'est une pensée profonde et délicieuse. Donc il y aura probablement un peu de Perec au menu.
Merci Laurent Munich pour ce coup de cœur, merci pour ce voyage au centre de ce très beau et grand projet que les auditeurs se feront un plaisir pour certains de découvrir pour la première fois, et pour d'autres de continuer à cheminer avec vous en découvrant d'autres univers sur Académ. Un grand bravo à vous et à tous vos collaborateurs pour ce travail considérable et magnifique. Je vous souhaite un vif succès dans la suite de votre entreprise. Chazak ve'ematz, trouvez le courage et la force pour réaliser vos vœux les plus chers selon la belle formule hébraïque. Merci encore Laurent Munich.
Toda Rabba, et c'est un honneur que de s'inscrire de prendre le relais de Talmudic pour la période des vacances, puisque je crois savoir que vous allez suspendre votre diffusion.
Exactement, exactement. Donc, je vais le dire tout de suite. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Delphine Baudet, à la réalisation, comme d'habitude, la talentueuse Dany Journaud. Vous retrouverez sur le site toutes les indications concernant notre invité et le projet Académ. À partir de la semaine prochaine, Talmudique vous propose des rediffusions jusqu'à la rentrée début septembre. Je vous invite à nous retrouver sur le site de Talmudique où vous pourrez podcaster les émissions de votre choix, les réécouter, les partager et les commenter. Vous découvrirez chaque semaine de cet été une playlist de musique et de livres, romans, essais ou autres que nous avons particulièrement aimés et que nous n'avons pas eu le temps de vous présenter à l'antenne. Toute l'équipe de Talmudique vous souhaite de très bonnes vacances et espère vous retrouver dès la rentrée. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et un très bon été.